Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous allons parler de conversion. Et dans les lectures du jour, nous en avons choisi quatre. La première se trouve dans l'Évangile, dans le livre de Jonas. Il s'agit du chapitre 3 du livre de Jonas. La parole du Seigneur s'adressa une seconde fois à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et profère contre elle l'oracle que je te communiquerai. » Jonas se leva et partit, mais cette fois pour Ninive, se conformant à la parole du Seigneur. Or, Ninive était devenue une ville excessivement grande. On mettait 3 jours pour la traverser. Jonas avait à peine marché une journée en proférant cet oracle. Encore 40 jours et Ninive sera mise sans dessus-dessous. Que déjà ses habitants croyaient en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, des grands jusqu'aux petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, fit glisser sa robe royale, se couvrit d'un sac, s'assit sur de la cendre, proclama l'état d'alerte et fit annoncer dans Ninive, par décret du roi et de son gouvernement, interdiction est faite aux hommes et aux bêtes, aux gros et aux petits bétails, de goûter à quoi que ce soit. Interdiction est faite de paître et interdiction est faite de boire de l'eau. Hommes et bêtes se couvriront de sacs et ils invoqueront Dieu avec force. Chacun se convertira de son mauvais chemin et de la violence qui reste attachée à ses mains. Qui sait, peut-être Dieu se ravisera-t-il, reviendra-t-il sur sa décision et retirera-t-il sa menace ? Ainsi, nous ne périrons pas. Dieu vit leur réaction. Ils revenaient de leur mauvais chemin. Aussi revint-il sur sa décision de leur faire le mal qu'il avait annoncé. Il ne le fit pas.
La deuxième lecture du jour est le psaume 25, psaume de David. Seigneur, je suis tendu vers toi. Mon Dieu, je compte sur toi. Ne me déçois pas. Que mes ennemis ne triomphent pas de moi. Aucun de ceux qui t'attendent n'est déçu, mais ils sont déçus les traîtres avec leurs mains vides. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur, enseigne-moi tes routes. Fais-moi cheminer vers ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Je t'attends tous les jours. Seigneur, pense à la tendresse et à la fidélité que tu as montrée depuis toujours. Ne pense plus à mes péchés de jeunesse, ni à mes fautes. Pense à moi dans ta fidélité, à cause de ta bonté, Seigneur. Le Seigneur est si bon et si droit qu'il montre le chemin aux pécheurs. Il fait cheminer les humbles vers la justice et enseigne aux humbles son chemin. Toutes les routes du Seigneur sont fidélité et vérité pour ceux qui observent les clauses de son alliance. Pour l'homme de ton nom, Seigneur, pardonne ma faute qui est si grande. Un homme craint-il le Seigneur ? Celui-ci lui montre quel chemin choisir. Il passe des nuits heureuses et sa race possédera la terre. Le Seigneur se confie à ceux qui le craignent en leur faisant connaître son alliance. J'ai toujours les yeux sur le Seigneur, car il dégage mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi, aie pitié, car je suis seul et humilié. Mes angoisses m'envahissent, dégage-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés, vois mes ennemis si nombreux, leur haine et leur violence. Garde-moi en vie et délivre-moi, j'ai fait de toi mon refuge, ne me déçois pas. Intégrité et droiture me préservent, car je t'attends. Ô Dieu, rachète Israël, délivre-le de toutes ses angoisses.
Nous allons maintenant écouter dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 4, les versets 12 à 23. Ayant appris que Jean avait été livré, Jésus se retira en Galilée. Puis, abandonnant Nazara, il vint habiter à Capharnaüm, au bord de la mer, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali, pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le prophète Ésaïe. Terre de Zabulon, terre de Nephtali, route de la mer, pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui se trouvait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Pour ceux qui se trouvaient dans le sombre pays de la mort, une lumière s'est levée. » À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, en train de jeter le filet dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Il leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Avançant encore, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans leur barque, avec Zébédée, leur père, en train d'arranger leur filet. Il les appela. Laissant aussitôt leur barque et leur père, ils le suivirent. Puis, parcourant toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du règne et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple.
Et nous avons choisi de vous lire, pour terminer, l'évangile de Marc, chapitre 1, les versets 14 à 20, qui fait un peu le pendant de celui de Matthieu que nous venons de vous présenter, avec Jésus également pêcheur d'hommes. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter le filet dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans leur barque, en train d'arranger leur filet. Aussitôt, il les appela, et laissant dans la barque leur père Zébédée, avec les ouvriers, ils partirent à sa suite.
I've lived a life to join you, and now only in time will tell. Won't you take my hand when you are worried? Take my hand when you're alone. Take my hand and let me guide you. Take my hand and lead you on. Father, dear father, put his car to the side of the road. Looked at his children with the tears in his eyes. Said life was too heavy and low. Now hold my hand.
Écoutez Radio Grand Ciel, et durant cette émission, nous écouterons des extraits du CD de Ben Harper et des Blind Boys of Alabama. Nous voudrions donc vous parler aujourd'hui de la conversion. Nous partons d'un mot grec, le mot « métanoïa » dans le Nouveau Testament. Quand Jean-Baptiste, puis Jésus, dans sa prédication au début de son ministère, nous disent, au premier chapitre de l'Évangile de Marc, « Jésus prêchait la bonne nouvelle de Dieu, l'Évangile de Dieu » Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Nous avons en grec le mot « métanoïa ».
En fait, pour ce verset 15 du chapitre 1 de l'évangile de Marc, il existe quatre traductions françaises différentes pour rendre compte de la métanoïa. Repentance, dans la traduction second, conversion, dans la Tob, retour, traduction Chouraki, et pénitence, traduction Le Maître de Sassy, qui était la traduction des théologiens de Port-Royal. Écoutons ces quatre traductions. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Second. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Tob. Faites retour, adhérez à l'annonce. Shuraki. Faites pénitence et croyez à l'évangile. Le maître de Sassi.
Ces quatre traductions vont deux par deux. Se repentir ou faire pénitence rendent compte du mot grec métanoïa. Ce mot est composé de nous, qui veut dire intelligence, mentalité, manière de vivre, et du préfixe méta, qui signifie le changement. Ce mot grec métanoïa signifie littéralement changement d'avis, changement d'opinion, changement de mentalité. D'où les traductions « repentez-vous » ou « faites pénitence ».
Mais, remarque la plupart des exégètes, le mot « métanoïa » n'est pas venu tout seul dans le grec du Nouveau Testament. Il vient lui-même de la Septante, c'est-à-dire de la traduction grecque de l'Ancien Testament, qui traduit ainsi le verbe hébreu « shub », très fréquent dans l'Ancien Testament, et qui signifie « revenir », »,« retourner à », se détourner d'eux ou se tourner vers. Se détourner de son péché ou de sa mauvaise voie pour se tourner vers Dieu ou pour revenir à Dieu. D'où les traductions de la Tob et de Shuraki, conversion, faire retour.
Toutes ces nuances dans les traductions s'enrichissent mutuellement et explosent dans leur évidence comme une transformation radicale de l'homme, un bouleversement dans sa vie. Il faut véritablement faire table rase sur le passé, sur le péché, faire retour vers Dieu, mais un retournement intérieur, profond, dans la foi, pour qu'il y ait conversion.
How many times have you heard someone say, if I had his money, I'd do things my way. Oh, but little they know, and it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind. Once I was waiting in fortune and fame, everything that I dreamed of to get a start in life's game. But suddenly it happened, I lost every dime. But I'm richer by far with a satisfied mind. My life is over and my time has run out. My friends and my loved ones, I'll leave there, no doubt. But one thing is for certain, when it comes my time, I'll leave here for certain with a satisfied mind.
Il faut se retourner vers Dieu. En fait, c'est toujours Dieu qui fait le premier pas. Il pardonne, il aime, il libère, il sauve. La prédication de l'Évangile précède toujours l'exhortation à la conversion. L'exemple le plus éloquent est celui de la Pentecôte à Jérusalem. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, Pierre prêche. Les auditeurs ont le cœur vivement touché et disent « Frères, que devons-nous faire ? Et c'est alors seulement que Pierre parle de conversion, de baptême, de pardon des péchés et de don du Saint-Esprit.
La Bible est comme un berceau de jonc, ainsi en parlait Luther. Comme le berceau de jonc fragile, imparfait, portant Moïse sur les eaux du Nil. Le berceau seul n'aurait aucune valeur, aucun intérêt. Il n'a de valeur qu'à cause de l'enfant précieux qu'il porte. Le berceau n'est pas l'enfant, mais sans le berceau, l'enfant se serait noyé, aurait disparu. De même, la Bible porte la parole de Dieu. Elle est la servante du Seigneur, non le Seigneur. La Bible a été écrite par des hommes, avec leurs passions, leurs égarements, les connaissances de leur temps, leurs souffrances, leurs rivalités, leurs guerres. Le regroupement des textes qui la composent fut l'objet de siècles de discussions et de modifications. La Bible est un message divin caché au plus profond du discours humain, qui à la fois le traduisent et en même temps le trahissent.
Mais la Bible devient parole de Dieu quand à travers les écrits humains qui la composent, nous percevons la voix divine qui nous appelle à la conversion, à la métanoïa, et nous invite à une vie nouvelle, comme le dit si bien André Gounel, professeur de théologie à Montpellier. Tous les sermons du monde n'auront de sens et d'utilité qu'au moment où chacun entendra pour lui-même l'Évangile, au moment où il aura le cœur vivement touché, au moment où il croira à cette bonne nouvelle pour lui. Ce sera alors une nouvelle naissance pour toi, comme dit Jésus à Nicodème, ou une création nouvelle dans ta vie, comme dit Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Une vie nouvelle, pardonnée, libérée, habitée par l'Esprit Saint, l'Esprit du Christ ressuscité.
How sweet and happy seem those days of which I dream. In memory I recall them now and then. And with a rapture sweet my weary heart would be if I could hear my mother pray again. If I could only hear my mother pray again. If I could hear her tender voices, then how happy I would be. It would mean so much to me if I could hear my mother pray again. Around the old home place, her cherishing, smiling face was always bringing comfort, joy, and cheer. And when she used to sing to her eternal King, it was the sound I loved to hear. If I could only hear my mother pray again, if I could hear her tender voices, then how happy I would be. It would mean so much to me if I could hear my mother pray again. If I could hear my mother pray again. If I could hear my mother pray.
Nous traversons des périodes de guerre, de peur, de tempête, de catastrophe, de troubles des esprits, avec en nous les sentiments mêlés d'angoisse, d'impuissance et de culpabilité. Dans ce contexte angoissant et déstabilisant, nous entendons cet évangile du royaume de Dieu, de ce royaume de Dieu proche, et l'appel à nous convertir et à croire.
À la fin du chapitre 4 de Jonas, qui est le dernier de ce livre, le livre se termine par une question de Dieu à Jonas, qui donne tout son sens à l'histoire de Jonas. « Comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, dit Dieu, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des bêtes en grand nombre ?» Ce qui est extraordinaire dans ce récit de Jonas, en particulier au chapitre 3 que nous avons lu, c'est que Jonas, malgré ses réticences, est envoyé par Dieu à Ninive pour y prêcher et que sa prédication, contre toute attente, réussit et que les Ninivites se convertissent. Les Ninivites crurent en Dieu, dit le verset 5, ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs.
Donc, foi et conversion, regret et retour. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que Dieu aussi se convertit. Dieu qui reconnaît la conversion de Ninive. Dieu vit, dit le verset 10, qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas.
L'appel à la conversion est pour nous qui sommes en quelque sorte du côté de Jonas, des lecteurs de la Bible, des lecteurs de l'Évangile. Appel à nous détourner de nos passions meurtrières pour nous tourner vers Dieu, à nous détourner de la mort pour nous tourner vers la vie, à la solidarité avec les peuples pauvres, avec les populations qui souffrent. Les textes de Jonas et de Marc nous adressent en quelque sorte un appel collectif à la conversion comme à Ninive, mais aussi un appel individuel, personnel.
Car si nous ne pouvons apparemment pas faire grand-chose pour changer le cours des événements, nous pouvons être des témoins de l'espérance. Nous pouvons prier avec d'autres croyants. Si nous sommes des auditeurs de l'Évangile du Royaume, nous pouvons, comme Jonas, devenir des témoins du Royaume, des prédicateurs de la parole, des ouvriers de la paix, de la réconciliation entre les hommes et avec Dieu, du pardon et de la solidarité. Nous pouvons prier pour l'unité de tous les fils de Dieu, de tous les chrétiens.
Jésus disait « Le temps est accompli, le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous, convertissez-vous, croyez à l'Évangile, à la bonne nouvelle du royaume. » Le mot grec employé ici pour « temps » n'est pas le mot « chronos », homonyme, vous le savez, de ce Dieu cruel, insensible, qui avait dévoré ses propres enfants, divination mythologique du temps qui passe, ce grand dévoreur d'hommes. Le mot employé par Jésus n'est pas le mot « chronos », mais le mot « kairos ». Et « kairos » est un autre temps que le temps de la nécessité. C'est le temps nouveau, le temps de la grâce, le temps du salut. Et c'est pour nous le temps de la décision, le temps de la conversion.
Le temps est accompli, dit Jésus, le kairos. L'occasion définitive est arrivée. Que ces chronos, ces temps de guerre, deviennent des kairos, des temps de paix et d'amour. Si quelqu'un a deux tuniques, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Comme Jonas, nous sommes renvoyés vers Ninive, vers la grande foule des hommes. Nous sommes appelés à croire et à témoigner, à nous repentir et à nous tourner vers l'espérance. Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. Dieu est à la porte de nos vies, au cœur de l'histoire des hommes. Je vous dis au revoir et à bientôt. Et je vous rappelle aussi qu'il y a culte tous les dimanches matins au temple Varus Saint-Thomas à Chartres.
à 10h30. Au revoir et à bientôt.
Let the warmth of my love.